Bulle d'histoire.
Hein ?
Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Grande et petite histoire dans l'œil des auteurs de bandes dessinées.
Pour une fois, nous ne sommes pas dans les studios somptueux de Art District, mais dans les bureaux des éditions Futuropolis, où je rencontre Julien Frey, qui sort un magnifique album qui s'appelle L'œil du STO, donc les éditions Futuropolis. Julien est le scénariste, Nadar, qui est un dessinateur espagnol, et donc le dessinateur. Bonjour Julien, je commence par ma question traditionnelle, qui êtes-vous ?
Bonjour, moi je suis Julien Frey, je suis scénariste, j'ai longtemps été scénariste pour la télévision, j'écrivais des dessins animés pour les enfants, et puis je fais de la bande dessinée maintenant depuis 6 ou 7 ans.
Alors, une question auquel je n'avais pas forcément pensé, quelle est la différence, s'il y en a une, entre un travail de scénariste pour une série télé et une bande dessinée ?
Ah, la différence est la liberté, déjà. La différence, c'est que vous n'avez pas de chaîne de télé qui vous censure, que vous n'avez pas d'impératifs économiques, si vous en avez, mais qui sont un petit peu différents. Mais en tout cas, en bande dessinée, on choisit ses sujets, on choisit ses histoires.
Alors, le titre de votre album, c'est L'œil du STO. Avant de rentrer dans l'histoire et dans votre travail, il faut quand même expliquer aux auditeurs ce qu'est le STO.
Oui, le STO, le service du travail obligatoire.
Parce que c'est pas tabou, vraiment tabou, mais c'est quelque chose qu'on a oublié, qui est un peu dans un angle mort de l'histoire.
Oui, on dit que ce sont les oubliés de l'histoire, en tout cas de la Seconde Guerre mondiale. Tous ces jeunes qui, à l'époque, avaient 20, 21 et 22 ans, qui ont été envoyés de force travailler en Allemagne. Soit dans des usines, soit dans des fermes. Mais en gros, on a dit à ces gamins, vous quittez tout et vous allez travailler pour aider l'occupant.
Ça se passe dans quel contexte à peu près ? Parce qu'il y a, dans votre bande dessinée, vous rappelez le contexte. À quel moment ils partent et pourquoi ?
Alors, ça commence en 1942. C'est pas vraiment encore les STO, c'est ce qu'on a appelé la relève. Là, c'était des volontaires et c'est pour ça qu'il y a un amalgame souvent entre les volontaires et ceux qui ne le sont pas. Mais au départ, on a envoyé des ouvriers en français en Allemagne pour remplacer les prisonniers. Comme il n'y avait pas, étrangement, il n'y avait pas assez de volontaires pour aller travailler en Allemagne, du coup, le gouvernement de Vichy s'est dit « bon, ben, on va les obliger ». Et on les a obligés. C'est en février 1943 que passe une loi, la loi dite du STO, pour envoyer de force tous ces gamins travailler en Allemagne.
Oui, ce qu'il faut ajouter, c'est que la France est le seul pays occupé pendant la Seconde Guerre mondiale qui a volontairement envoyé ses propres ressortissants travailler en Allemagne. Aucun autre pays occupé n'a organisé ce transfert de travailleurs.
Oui, oui, ils ont fait le travail et ils l'ont fait de façon appliquée, puisque... Il y a 600 000 STO. Alors sur les chiffres, c'est confus parce que ça dépend si on considère que les STO ce sont ceux qui partent dans le cadre de la loi ou ceux qui sont partis aussi avant. Donc moi je prends les chiffres de Raphaël Spina, l'historien qui a préfacé le livre, et postfacé, pardon. Et donc c'est environ 600 000, ce qui est quand même beaucoup.
Donc comment vous êtes arrivé à vous intéresser à cette histoire ?
En écrivant une autre. J'ai fait un album précédent qui s'appelait Michigan et qui déjà s'intéressait à la famille de ma femme et dans lequel on voyait déjà Justin, le héros de l'œil du STO, mais il avait un rôle très secondaire. Et je savais qu'il était allé au STO et dans cet album précédent, il le disait, mais il était juste silencieux. Et je me suis dit... Quand même, il y a une histoire là, va gratter. Et puis j'ai commencé à interroger ma femme et sa mère. Et elles avaient pas énormément d'éléments. Et moins elles en avaient, plus je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à gratter.
Et donc, il y a beaucoup de souvenirs, hein, parce qu'il y a la vie de Justin pendant cette période. Est-ce que vous l'avez rencontré, Justin ?
Et non, Justin, non. Justin, il est mort en 98, quelques années avant que je rencontre ma femme. J'ai rencontré René, j'ai connu René.
Qui était donc la femme de Justin.
Des anecdotes familiales, bah, c'est ma femme et puis sa mère, Chantal, donc la fille de Justin, qui est aussi dans le bouquin. Et elles m'ont raconté tout ce qu'elles savaient. Et ce qui est le point de départ du livre, est que Justin, le jour où il doit faire valider sa retraite, on parle beaucoup des retraites en ce moment, c'était déjà compliqué à l'époque, enfin, on lui a proposé d'utiliser l'année 43, l'année passée au STO, pour ses points retraite. Et il voulait pas comptabiliser cette année-là. Il préférait travailler une année de plus qu'utiliser ça. Moi, je vais courir toute ma vie après mes années de retraite, enfin mes années de travail. Donc je me dis oui, quand même, c'est le traumatisme devait être assez important pour qu'il ne veuille pas en entendre parler.
Oui, puis c'est un travail quand même éprouvant. Il était serveur, garçon de café.
Ouais. Alors il a été soit serveur, soit barman. Et puis à l'époque, on changeait souvent de poste, en fait, de bar. On travaillait un endroit, puis un autre endroit. Et il est passé par énormément de brasseries et cafés parisiens, et notamment du 15e.
Donc, si vous ne l'avez pas rencontré, comment vous avez récupéré toutes ces anecdotes, toutes ces histoires de tout ce qu'il a vécu en Allemagne, parce qu'il va rester une petite année ?
Sur l'Allemagne, j'avais très peu de choses. Des fois, les gens ne comprennent pas. Il n'avait pas pris de photos, il avait pris très peu de notes, mais il avait pour habitude de faire des listes. Et il avait notamment fait la liste de ce qu'il avait fait le jour de son départ pour Berlin, avec les horaires de train. C'est comme ça que je sais par où il est passé jusqu'à son arrivée à l'usine AEG. Donc ça m'a donné déjà un itinéraire. Puis après, j'ai fait des recherches et je me suis aperçu que c'était l'itinéraire que faisait en général le quantriage. Et puis après, il a fallu que je fasse des recherches. Et c'est là que c'est en faisant ces premières recherches que j'ai constaté qu'il y avait très peu de choses sur le STO. Le livre de Raphaël Spina n'était pas encore sorti. Par contre, il y avait déjà la thèse de Patrice Arnaud, qui est incroyable, qui est un précurseur en termes de recherche sur le STO. Et il avait rassemblé une masse d'informations assez monumentale. Et ça m'a beaucoup servi à comprendre, à contextualiser tous ces passages en Allemagne. Et puis après aussi, il y a quelques livres de témoignages, mais aucune fiction. C'est ça que j'ai trouvé étrange. C'est-à-dire que la fiction s'est jamais emparée du STO. Ni au cinéma,
ni en BD.
Non. Alors, il y a eu quelques histoires en BD, notamment chez Futuropolis il y a quelques années, mais je me souviens pas du nom de l'album, d'un album où c'est l'histoire d'un réfractaire. Et souvent, c'est ça. C'est des jeunes gens qui choisissent de pas y aller et qui vont devenir résistants. Et l'album qu'on a fait, nous, avec Nadar, on voulait pas rentrer dans ce truc-là, on voulait vraiment raconter l'histoire de Justin, l'histoire de quelqu'un qui a accepté d'y aller.
Oui, parce que la chose qu'il faut dire aux auditeurs qui connaissent pas cette histoire, c'est que quand le STO est mis en place, il y a beaucoup de jeunes qui partent, parce qu'ils sont obligés, mais il y a un certain nombre de jeunes qui vont éviter de partir et qui vont rejoindre le maquis. Donc il y a dans l'imaginaire et dans l'imaginaire qui produit des lieux communs, il y a les résistants et puis ceux qui sont partis au STO.
Ouais, alors ça c'est un énorme lieu commun, parce que notamment en termes de réfractaires, il y en a beaucoup qui ont été réfractaires parce qu'ils voulaient pas y aller, mais c'est pas pour ça qu'ils sont allés dans la résistance. Ils se sont cachés. C'était leur choix. Et dans la résistance, faut dire aussi que les résistants, ils avaient pas besoin de tout le monde, quoi. Et des gamins de 19-20 ans qui avaient pas forcément savoir-faire utile pour la résistance, c'était plus un poids à nourrir qu'autre chose. On a retenu ça, une espèce d'image d'Épinal. Le résistant a existé, mais c'est pas le français. Enfin, il n'y a pas eu que des résistants, quoi.
Ouais, mais c'est une image qui a beaucoup pesé sur les épaules des STO. C'est ça aussi qui est difficile. C'est que ces hommes qui ont été obligés d'y aller, qui ont perdu un an, quelquefois deux ans de leur jeunesse, voilà, ils ont eu ce poids sur le dos et c'est quelque chose qui a été très très dur à vivre. Et d'ailleurs, Justin, je ne sais pas si c'est ça qui le hante, Mais la fin de l'album, on a l'impression que c'est ça. Il se sent presque coupable d'y être allé. Et il y a une scène bouleversante qu'on va pas décrire.
Ouais.
Parce que c'est le... On s'y attend pas, d'ailleurs.
Ouais, ouais.
Mais il y a un peu ça sur le dos du héros.
Bah, Justin, il a obéi à Vichy, il a obéi à sa mère. Un gamin qui obéit, c'est ce qu'on demande tous à nos enfants de faire, quoi, d'obéir. Donc lui, il a obéi, et quand il est rentré, on lui a expliqué... Bah, déjà, il s'est fait bombarder par les Alliés, donc il savait pas quand les Anglais et les Américains allaient débarquer dans le camp de Hennigsdorf. Il savait pas comment il allait être traité, comme un collaborateur, comme un traître... C'était compliqué pour eux de se dire « Bon, bah, on se fait bombarder. Comment on va rentrer chez nous? Comment on va être accueillis ?» Oui, il y a ce poids de la culpabilité parce que encore une fois, il y a beaucoup de gens qui se sont révélés être des résistants. Et lui, il est allé au STO. Donc c'était un peu marqué au fer rouge. On lui a dit qu'il avait mangé dans la soupe des Allemands. Quoi.
Alors il y a des pages qui sont vraiment passionnantes sur la vie quotidienne des STO. On les appelle comme ça... Historiquement, on les appelle les STO. Ça, il faut lire l'album parce qu'il y a effectivement, c'est très documenté. On voit qu'ils ont une vie de semi-esclaves, même s'il y a des aménagements, parce qu'ils ne sont pas esclaves non plus, mais ils ont une vie très très compliquée.
C'est ça qui est compliqué, c'est que justement, ils ne sont pas non plus prisonniers. Et c'est ce qu'on a voulu montrer dans l'album, c'est que, ok, ils travaillent 10 ou 12 heures par jour et on les fait trimer et ils sont accusés de sabotage s'ils n'assument pas une certaine cadence. Mais le week-end, ils peuvent sortir. Et c'est ce que j'ai vu dans plein de témoignages. C'est assez étrange quand même. On vous libère le week-end, le temps d'aller voir un spectacle de théâtre, d'aller voir un concert, d'aller vous promener dans les rues de Berlin, d'aller voir les petites femmes de Berlin aussi. C'était très étrange et je pense que ça a contribué à peser sur eux à leur retour. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas enfermés tout le temps. Ils avaient ces espaces de liberté et pouvaient manger au restaurant et donc c'était quand même étrange.
Oui, tout à fait. Oui, et ça c'est bien rendu dans l'album. Ouais. Alors l'autre chose que moi j'ai trouvé remarquable, c'est tout ce qu'il y a avant le STO et ce qu'il y a après.
Ouais.
C'est-à-dire la vie quotidienne de la jeunesse. Justin a 20 ans, il a une petite sœur qui doit avoir 16 ans, 17 ans.
Oui, c'est ça. Odette.
Donc Odette et Justin, leurs parents, leur mère a des problèmes de couple, enfin c'est une histoire humaine. Mais on vous racontait vraiment remarquablement bien la vie de cette jeunesse, et on comprend le drame du STO, mais il y a tout un côté léger au début, même si c'est la guerre.
Bah merci, parce que c'est ce que j'essaye de faire à chaque fois que je commence un scénario, c'est-à-dire de ne pas voir les gens... avec une sorte de filtre sépia du passé, comme on regarde souvent les gens d'autrefois comme s'ils avaient toujours été vieux. Et non, c'était des gosses, c'était des gamins. Et je pense que si on veut expliquer la problématique, notamment, enfin celle-ci, mais de façon générale dans l'histoire, mais là pour le STO, il faut les voir comme ils étaient, c'est-à-dire c'était des gamins. C'était des gamins qui obéissaient à leurs parents ou qui désobéissaient. Quand ils se retrouvent après dans le camp avec les autres STO, pour moi c'est comme des jeunes qu'on envoie au service militaire et qui n'ont jamais connu autre chose que chez eux, qui se retrouvent avec des gens de cultures différentes, qui viennent de partout et de niveaux sociaux différents aussi, quoi. Donc j'avais effectivement envie de les montrer comme des jeunes de leur âge, pas comme des vieux.
Oui, parce qu'ils font des conneries, entre guillemets, ils boivent, ils sortent, ils draguent les filles.
Ils font de l'humour, et même pendant l'occupation, on a fait de l'humour, et donc il ne faut pas, avec le recul des années, avoir encore une fois un regard terne sur ces années-là, je crois.
Alors, il y a une autre chose qui est très touchante, c'est l'histoire de Justin et de René.
Ouais.
Ah oui. J'ai eu la chance d'interviewer un certain nombre d'anciens combattants ou d'hommes qui sont partis à la guerre ou qui ont été déportés. Ouais. Et très souvent, les histoires d'amour,
ne résistent pas.
Elles ne résistent pas, elles se diluent dans le drame, dans le temps qui passe. Et là, René, elle tombe amoureuse de Justin avant son départ. Justin est amoureux d'elle avant son départ et l'histoire va continuer et ils vont finir...
Oui, mais ça... Ça, j'ai pas eu grand chose à faire en tant que scénariste parce que j'avais la matière sous les yeux et c'est ce qu'on m'a raconté, c'est-à-dire que c'est un couple qui au départ avait aucune chance. Ils se rencontrent, tout le monde explique à Justin que René c'est une fille qui pense qu'à danser, qu'elle va le tromper, qu'elle fait la fête tout le temps. Et lui il est plutôt casanier, il aime pas danser. Et donc sa famille est contre cette relation, ses copains lui disent mais qu'est-ce que tu vas faire avec elle? D'autant plus qu'elle elle est déjà mariée avec un autre homme.
Oui.
Donc ça partait plutôt mal. Et au moment où il s'en va, on se dit que elle va le quitter. C'est mort. On se dit c'est mort. non, ça n'a jamais été mort. Et c'est une histoire qui a duré jusqu'au décès de Justin. Donc c'est aussi ça qui m'a donné envie d'écrire cette histoire. C'est qu'ils avaient tout contre eux. Ils avaient l'histoire contre eux, la famille contre eux, enfin, et je trouve ça assez beau, mon côté romantique, je sais pas, mais ce couple qui a duré, on les voit après âgés, je trouvais ça très très touchant, donc j'avais envie de raconter ça.
Puis ce qui est touchant, c'est que souvent dans les histoires, il y a un côté romantique un peu artificiel, or là on sait que c'est une vraie belle histoire.
Quoi. Ouais. Ouais, ouais, ouais.
C'est ça qui est touchant, c'est que ce sont des vrais gens, quoi.
Ouais, 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 ouais. Mais ouais, encore une fois, je me suis servi de ce qui existait. Et après, c'est agencé, on fait des choix scénaristiques pour raconter les choses. Mais par exemple, le voyage. Alors, vous avez raison, on va pas dévoiler la séquence en Guyane. Il y a une séquence assez forte. On va pas la dévoiler, mais les deux voyages de sa vie, ils ont existé, donc moi j'avais une belle matière, quoi.
Oui, ce qui veut dire que c'est son premier voyage, c'est en Allemagne, donc c'est un voyage dramatique. Voilà. Et que son deuxième et peut-être dernier voyage, je ne sais pas s'il a revoyagé après, en tout cas son deuxième voyage, il rejoint sa fille.
En Guyane.
Qui est en Guyane, donc c'est là aussi un sacré voyage.
Ben surtout, on ne se rend pas compte aujourd'hui parce qu'on voyage beaucoup, mais dans les années 70-80, pour des gens déjà un petit peu âgés, prendre l'avion, aller au bout du monde, c'était quand même quelque chose. Et certains ne le faisaient jamais, d'autres le faisaient peut-être une fois dans leur vie. Et là, effectivement, lui, il est allé voir sa fille. Et y avait ma femme aussi qui était petite à l'époque. Et donc, ça a été pour lui quelque chose, lui qui aimait la nature. Mais il aimait la nature, mais il sortait rarement de son 15e arrondissement. Et là, il s'est retrouvé en Guyane. Donc, pour René et pour lui, c'était le voyage. C'est devenu le voyage de sa vie. Alors que jusque-là, le voyage de sa vie, ben forcément, c'était un peu.
C'est intéressant d'avoir un beau voyage de sa vie au final, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Non, c'est sûr. Mais encore une fois, c'est intéressant de se dire qu'aujourd'hui, comme on voyage tout le temps, c'est une émotion. Peut-être qu'il est plus dur, comme on fait tout beaucoup plus qu'avant.
Oui, mais c'est un truc qui est bien, bien raconté. Alors, on a presque fini. Moi, je trouve que dans cet album, les personnages sont remarquablement écrits et on s'y attache. Ils existent, ils sont chers. Enfin, vraiment, c'est formidablement bien fait. Et il y a un petit personnage qui, au début et à la fin, c'est la petite fille, c'est votre femme, j'imagine.
Ouais, 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 c'est ça.
Qui est un peu les deux bornes. Après, c'est peut-être moi qui fantasme hein, sur la construction, mais je trouve que ça fait les deux bornes de l'album. C'est-à-dire que c'est l'enfance qui continue et.
Ouais, c'est ça.
Et c'est tout
elle
ça.
Fait le lien. Ma femme se promenait beaucoup avec son grand-père. Il parlait pas, mais il marchait beaucoup. Et donc. Depuis que je la connais, elle me raconte ça, qu'elle a passé énormément de temps à marcher dans le 15e avec son grand-père. Et effectivement, bah, c'est la filiation, quoi. C'est-à-dire que.
Qu'est-ce qu'elle en a pensé, votre femme, de voir l'histoire de son grand-père et un peu son histoire?
Elle est très touchée. Elle me dit pas grand-chose parce que elle me dit je suis tellement concernée par cette histoire que. D'habitude, elle a un avis critique. Quand ça va pas, elle me le dit. C'est ma première lectrice, en fait. Mais là, sur cet album, ça a été plus compliqué pour elle de pouvoir donner son opinion parce qu'elle était dedans. Alors, elle est dans d'autres aussi, mais.
C'est ce que j'allais vous dire.
Mais là, c'est son grand-père, quoi. Là, c'était pour elle, c'est beaucoup. Alors elle est touchée, voilà. Je sais qu'elle est touchée.
Parce que vous êtes, vos albums sont beaucoup autobiographiques, au sens familial, parce que celui-là et le précédent, c'est l'histoire de votre femme et de sa mère.
Alors le précédent, c'était sur Edouard Luns, c'est dessiné aussi par Nadar, c'est moi qui allais à la rencontre, qui allais chercher les films d'Edouard Luns. Donc c'était aussi une matière autobiographique. Mais c'était pas un cadre familial, une recherche familiale. Mais les albums d'avant, les deux autres, je reviendrai frapper à ta porte, Michigan, effectivement, c'était des. Comme celui-ci, je suis allé gratter ce qu'il y avait autour de moi, mais quand je trouve une histoire, je la raconte. En fait.
Et comment se passait le rapport avec le dessinateur? Parce que je précise, l'album est entièrement en noir et blanc.
Ouais, c'est son choix. Il avait très envie. Nadar, l'album précédent était déjà en noir et blanc, mais un noir et blanc. Un peu différent. Alors il faudrait qu'il soit là pour en parler parce que je vais très mal en parler de ça. Mais là vous voyez le noir et blanc est beaucoup plus contrasté, le papier est différent, le papier était mat sur l'album précédent. Nadar avait envie d'avoir des noirs très contrastés. Et alors pour répondre à votre question, comment ça s'est passé? Ça s'est passé très bien et j'ai l'impression que ça se passe de plus en plus facilement. Parce que sur le premier album, on se rencontrait, et puis maintenant, on devance un peu les envies de l'un et de l'autre.
Alors pour les auditeurs, je dis que l'album est en noir et blanc, mais c'est pas un noir et blanc plombé. C'est un noir et blanc presque léger, c'est un noir et blanc très narratif.
Ouais.
Ça aussi, ça fait partie de l'intérêt de cette lecture.
Je crois que c'est un noir et blanc qui... traitement du noir et du blanc qui s'inspire un peu des frères Hernandez, les albums de la série Locas ou Palomar.
Mais Julien, je crois qu'on s'est presque tout dit. Maintenant, il faut lire l'album et le découvrir parce que c'est à la fois une petite leçon d'histoire sur un événement mal connu, mais c'est un très très bel album d'histoire humaine.
Bah merci.
Voilà. À bientôt.
À bientôt.
Et ma chère Julie, je vous dis au revoir et à bientôt pour la prochaine bulle d'histoire.
Bulle d'histoire. Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil.
Waouh !
Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30.